France Inter. France Inter, la Terre au carré.
L'heure de votre lutte enchantée, Camille Cronier.
Et direction le Brésil. Oui, je nous mets un petit peu dans l'ambiance, ça fait toujours du bien, surtout en ce moment. Le Brésil, où sont réunis les 20 plus puissantes économies de la planète, le G20, pour parler entre bonhommes, il n'y a que trois femmes dans le tas, de l'avenir du monde. Et celui qui reçoit est donc Lula, le président brésilien, tout sourire sur les photos à Rio de Janeiro, réélu l'an dernier après Bolsonaro, qui lui a fait un cadeau, et maintenant j'arrête les rimes. Sa gestion de la crise environnementale étant absolument catastrophique, à peu près n'importe qui après lui, passe pour le plus grand défenseur de la planète. Et Luiz Inácio Lula da Silva bénéficie largement du contraste. Dans l'opinion publique mondiale, c'est lui le vrai champion de la Terre. Et il ne se prive pas de l'afficher. On se souvient de son accueil héroïque juste après son élection à la COP27, ravi au milieu des hurrahs. On se souvient aussi du plan d'1 milliard d'euros annoncé il y a quelques mois pour l'Amazonie, tout sourire encore lors d'une accolade en pleine forêt tropicale avec Emmanuel Macron. Et c'est vraiment sa vitrine, cette forêt, puisqu'il y a quelques jours, il postait sur X de bonnes nouvelles. Je cite, moins 30% de déforestation en Amazonie, qui a atteint son niveau le plus bas de déforestation depuis 9 ans, et presque 30% aussi en moins dans le Cerrado, niveau le plus bas en 5 ans. L'environnement est la priorité de notre gouvernement, conclut-il. Bon. Sauf que Lula s'emballe un peu, apparemment. Bien sûr qu'il y a de gros progrès, mais...
We must talk about the problems.
Il faut parler des problèmes, avertit Sueli Arojo, coordinatrice des politiques publiques à l'Observatoire du Climat, une grande coalition au Brésil. Lula n'est pas si vert que ça, et ça commence à faire rager les militants écologistes, les peuples autochtones, mais aussi la presse brésilienne, où certains l'accusent carrément d'être un pompier qui jette de l'huile sur le feu climatique. Alors cette huile, elle a deux ingrédients principaux. Le premier, c'est un combustible, un vrai, le pétrole, que Lula veut exploiter à 500 km de l'embouchure de l'Amazone, dans une zone marine très riche en biodiversité. Mais il l'assurait en juin. Nous voulons que tout soit légal en respectant l'environnement, mais nous n'allons pas laisser passer la moindre opportunité de favoriser la croissance de ce pays. Un petit partenariat voilà, avec l'Arabie Saoudite, il le voit comme un investissement pour son propre pays, 9e producteur de pétrole mondial, et aussi pour financer notamment la transition énergétique. LOL. Le champion du climat veut donc forer de nouveaux puits de pétrole. Ça fait tache d'huile. Deuxième ingrédient sorti il y a quelques semaines lors d'un déplacement dans le nord-ouest du pays. Il veut autoriser le bitumage d'une route immense. Elle s'appelle la BR-319. Elle fait quasiment 900 km. C'est le seul accès terrestre à la ville de Manaus, dans le nord-ouest donc. Mais c'est une super vieille piste. Elle date des années 70. Donc, dès qu'il pleut, elle est impraticable. Voilà pourquoi Lula a décidé d'annuler l'annulation prononcée par la justice contre une autorisation de Bolsonaro. Est-ce que vous me suivez ?
Presque.
Pas du tout, non. Bon, alors, Bolso avait dit OK pour cette route toute neuve en 2022. Des associations avaient déposé un recours, la justice avait dit donc stop, mais Lula a donc relancé la machine, notamment parce que cette route est attendue par des habitants de cette zone enclavée. Lula a dit à son gouvernement de dire stop à la justice. Vous voyez un petit peu le tableau. Problème, cette route traverse la partie la plus préservée de la forêt amazonienne et au-delà des travaux pour l'asphalte même, des chercheurs ont établi qu'elle pourrait multiplier par 4 la déforestation dans la zone, puisqu'elle permettra cette route un accès plus facile à la zone. L'Observatoire du Climat demande donc des garanties sur les contrôles, mais pour l'instant,
we are far from having this.
On en est loin. Au sujet du pétrole, qui serait une obsession d'après la presse pour Lula, ancien métallo, une petite bagarre est engagée avec Marina Silva, la ministre de l'Environnement, qui demande, elle, des clarifications sur les impacts sur la faune marine en particulier, donc à suivre. Quoi qu'il en soit, même si Lula a fait des progrès entre son premier et son deuxième mandat de président, ses projets sont incompatibles avec de vraies ambitions environnementales.
It's impossible. This is really contradictory. And I think it's unacceptable.
Impossible, contradictoire et inacceptable, m'a dit Sueli Arojo, qui espère, comme beaucoup d'autres au Brésil, que Lula n'est pas que l'arbre qui cache en fait une forêt d'immense greenwashing.
Merci beaucoup Camille Cronier. On peut réécouter votre lutte enchantée sur la page de l'émission. À la semaine prochaine. Hervé Poirier pour le magazine Epsilon. Vous nous parlez, Hervé, des lunes de la planète Uranus qui s'avèrent plus intéressantes que ce qu'on imaginait.
La sonde Voyager 2 était passée il y a 40 ans dans le coin. Mais ce qu'elle y avait vu laissait penser que les 5 principales lunes de cette lointaine planète géante ne sont que des boules de glace tristes et stériles. Sauf que, des astrophysiciens qui ont replongé dans ces vieilles données viennent de réaliser que la sonde était en fait passée à un moment très particulier, lors d'un très fort orage magnétique du Soleil qui a faussé totalement les analyses. Cela a laissé penser qu'Uranus ne dégageait pas de champ magnétique protecteur comme la plupart des autres planètes, et cela a empêché aussi de détecter autour des lunes le magnétisme caractéristique de la présence d'océans cachés sous la glace. Or, pas de chance, il aurait suffi que la sonde passe juste quelques jours plus tard pour qu'Uranus se présente sous un bien meilleur jour, car là-bas, c'est bien mieux que ce qu'on en dit. Une autre équipe vient d'analyser les images prises par Voyager 2 de Miranda, l'une des principales lunes d'Uranus. Et selon eux, la meilleure façon d'expliquer les craquelures qui strient la surface est la présence, durant des centaines de millions d'années, d'un vaste océan de 100 km de profondeur, caché sous 30 km de glace. Cet océan, chauffé par l'attraction d'Uranus, aurait depuis en partie gelé, mais pas totalement. Cet été, Ariel, une autre lune d'Uranus, a été scrutée avec le télescope spatial JWST, le nouveau fleuron de l'astronomie. Le dioxyde de carbone qu'il a détecté à la surface ne pourrait, selon eux, venir que d'un vaste océan sous-glaciaire. Tout laisse penser qu'il en va aussi de même pour Umbriel, Titania, Oberon, les trois autres principales lunes d'Uranus. Elles cacheraient toutes de très vastes océans. Or, qui dit au liquide des vies possibles.
Et oui, évidemment. Et donc, ça donne envie, Hervé, aux agences spatiales d'aller voir tout ça de plus près, j'imagine.
Et c'était déjà prévu. La mission Uranus Orbiter en probe doit être lancée par la NASA à la fin des années 2030. Mais oui, ces nouveaux résultats rendent la mission encore plus excitante. En fait, les lunes glacées autour des planètes géantes sont aujourd'hui devenues les grandes stars de l'exploration spatiale. Une sonde européenne est partie l'année dernière étudier les océans cachés sous la calotte de deux lunes de Jupiter, Callisto et Ganymède. Il y a un mois, une sonde américaine est partie explorer l'océan d'Europe, une autre lune de Jupiter. Car les astronomes aujourd'hui en sont de plus en plus convaincus, c'est dans ces lunes que se cache la plus grande partie de l'eau liquide extraterrestre. C'est donc là qu'on a le plus de chances de trouver de la vie.
Et les autres terres, alors Hervé ?
Eh bien, il faut dire que découvrir une autre planète bleue, ça reste l'objectif principal de JWST, mais depuis 3 ans, ça n'a rien donné. Plusieurs candidates ont été scrutées, elles n'ont pas d'atmosphère, donc pas d'océan. Le doute monte, et si la Terre était finalement une exception ? Autre piste, la communauté regarde du côté des planètes océans, qui sont plus grosses que la Terre et gorgées de 500 à 1000 fois plus d'eau. Une première candidate a été observée, peut-être cet été, par JWST. Oui, mais on ne connaît pas du tout ce type de planète, il n'y en a pas dans notre système. Et c'est pas sûr que l'eau y soit liquide. Reste donc les vastes océans cachés dans les lunes glacées des planètes géantes pour nourrir notre imaginaire. L'exploration est lancée, mais chacun peut d'ores et déjà commencer à rêver aux poissons uraniens.
Oui, on va commencer tout doucement à rêver. Merci beaucoup Hervé Poirier. On retrouve toute l'actualité de la science dans votre magazine Epsilon, avec un nouveau numéro d'ailleurs qui vient de sortir sur les arbres.
Sur la vie secrète des arbres, la théorie s'effondre.
À bientôt, la semaine prochaine. Et puis on termine comme tous les jours avec vos messages. C'est le répondeur de la Terre au carré.
Bonjour, Viviane de L'Île-Dieu. Cher Terre au carré, mais quel dommage d'avoir gâché la magnifique intervention du 15 novembre de la sociologue Kaoutar Archi, en passant juste après le message téléphonique de la vétérinaire Virginie. Selon moi, elle a tout gâché, en prônant de manger de la viande et se moquant de la fierté des chroniqueurs de France Inter d'être végétarien. Elle n'a malheureusement rien compris, très étonnant d'ailleurs de la part d'une vétérinaire. Elle n'a pas compris ce que signifiait de devenir végétarien, le refus d'exploiter les animaux, de les manger. Comment fait-elle pour ne pas comprendre qu'ils sont des êtres sensibles, intelligents, sachant exprimer la joie, la bonne humeur, éprouvant des émotions, la douleur, la tristesse et la peur de mourir comme tout être sentient? Même si les animaux sont bien traités durant leur courte vie, ça ne suffit pas, ils finissent quand même dans un abattoir. Allez voir les images que vient de diffuser L214 sur l'abattoir de Maurienne en Savoie. Ça vous donnera une petite idée sur les méthodes utilisées pour tuer les animaux. Merci.
Comment pouvez-vous laisser dire que les espèces, c'est une construction sociale, mais c'est une construction scientifique, les espèces. Darwin doit se retourner dans sa tombe. Hein.
Bonjour, c'est Samuel de Los Mazos, dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, je vous appelle pour vous signaler que Total Energy fait des spots publicitaires, juste avant le journal de France Inter. Et je trouve ça assez terrible quand on sait la responsabilité qu'ils ont par rapport au dérèglement climatique. Assez terrible, surtout que ça suit un téléphone sonne qui parle justement des dégâts des eaux, etc. Donc on nage en plein délire.
Bonjour, Brigitte de Tours. Bonjour Mathieu, Camille et les auditeurs. Je pousse un grand cri de colère contre les abus du droit d'échelle qui permet en toute légalité à de futurs voisins de ravager 35 ans de patiente plantation et attention en posant un échafaudage qui implique des coupes et la pollution du sol par le grattage de l'enduit à la chaux. Voilà, je suis dévastée avant notre jardin par les inconséquences des attributions des permis de construire, surtout qu'à Tours, notre mairie est écolo. Merci de passer mon message, parce que je dois pas être la seule dans ce cas-là. Bonne journée.
Bonjour, à Terre au Carré, Alexis, à La Roche-sur-Yon, Vendée. Au sujet des zones de captage d'eau potable polluées par les pesticides, serait-il possible d'y installer des agriculteurs bio, ce qui éviterait d'indemniser les agriculteurs pollueurs. Et félicitations pour votre émission.